Romains, on est dans Romains 8 et on arrive au verset 26. Alors Romains 8, 26, « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Seigneur, nous te demandons que tu continues de toucher nos cœurs, que nous puissions vivre ce moment concentré sur tes pensées et sur ta parole, avec une conscience de toi, que ton esprit, qui est celui qui nous guide dans la vérité, vienne illuminer nos cœurs, notre intelligence spirituelle, pour nous permettre de comprendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Ce que tu veux nous communiquer ce matin, que derrière les mots, derrière ce que tu nous as transmis, la réalité spirituelle vienne remplir notre être intérieur et que nous soyons transformés à ton image, Seigneur Dieu. Amen. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. C'est un texte qui peut être interprété des fois de façon diverse et variée. Hein. Je pense qu'il faut tout simplement le comprendre de la façon la plus simple de ce qui est écrit. J'aimerais dire qu'en tout cas, pour ma part, je vois pas du tout, et le vocabulaire utilisé dans le texte original non plus, rien à voir avec ce qu'on appelle le parler en langue dans ce domaine-là. Quoi qu'on croit sur ce sujet-là, en tout cas, c'est pas de ça qu'il est fait mention ici. Hein. Mais ici, l'apôtre Paul est en train, dans ce chapitre 8, de nous parler de la vie de l'esprit. Hein. On avait vu quelques fois auparavant comment le but de la vie du croyant, c'est d'être conduit par l'esprit de Dieu dans tout ce que nous faisons. Sinon, celui qui est conduit par ses propres désirs, hein, en opposition avec celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et là, Paul apporte quelque chose de très très important sur la prière. Mercredi soir, on était à Vienne pour une rencontre de partage chez Robin. Et puis c'était vraiment très très intéressant, on a fait un petit tour. J'avais demandé à chacun s'ils voulaient bien, mais ils ont tous voulu, de nous expliquer comment personnellement ils vivaient au quotidien leur relation avec Dieu, comment ça se traduisait. Hein. Et puis, on s'est aperçu de la difficulté qu'il y a pour la plupart, par exemple quand on lit la Bible, à aller plus loin que les mots de la Bible. Hein. C'était intéressant parce que c'était une soirée très honnête, les gens disaient ce qu'ils disaient. Moi quand je lis la Bible, je l'ai entendu raconter, avant de savoir lire, je l'avais déjà entendu raconter 2-3 fois. Donc maintenant, quand je la lis, je lis une phrase, je sais la phrase qu'il y a après, et j'ai beaucoup de mal à ce que ça me nourrisse spirituellement. Hein. Alors, soit je le fais par discipline, parce qu'un chrétien, ça lit sa Bible, alors je lis ma Bible. Hein. Et puis, si quand même, Dieu me parle, mais souvent, c'est pas évident. Et puis, il y avait un petit peu le même constat pour la prière. À savoir, c'est difficile de prier parce que, là aussi, hein, si on met de côté la satisfaction naturelle, non spirituelle, que tout être humain ressent quand il a fait ce qu'il pense qu'il devait faire, souvent il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Beaucoup de chrétiens se contentent de ça toute leur vie. Mais ils ressentent la même chose que quelqu'un à qui son docteur a dit « Écoutez, pour votre santé, il vous faut marcher une heure tous les jours. » Puis cette personne-là n'est pas sportive, alors elle va marcher, et quand elle revient de marcher, elle est contente. Pourquoi ? Elle a fait ce qu'il fallait qu'elle fasse, et puis en plus la marche a libéré quelques endorphines, donc le fait d'avoir fait ce qu'on devait faire, plus les conséquences physiques, on se sent mieux. Hein. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas d'autre satisfaction dans la vie chrétienne que celle-là. J'ai lu ma Bible, c'est pas forcément intéressant, ça me passionne pas, ça bouleverse pas ma vie, ça m'apporte pas grand chose, mais je l'ai fait. Et ma vie de prière, c'est pareil, Dieu dit qu'il faut prier, alors je prie. Et Paul ici aborde quelque chose de très très important par rapport à la prière. justement en établissant le fondement de la prière qui est le même que le fondement de nos vies chrétiennes. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait. Tout ça, ça doit être les conséquences. C'est le fait que Dieu vit en nous par son esprit. Cette nouvelle vie qui a été mise en nous. Lorsque l'apôtre Paul dit aux Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lorsque Jésus explique à Nicodème, si tu ne nais de nouveau d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Lorsque Pierre dit, vous tous qui avez été régénérés par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Toutes ces formulations parlent d'une seule et même chose. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, lorsque nous acceptons les conséquences de ce que Christ a accompli pour nous à la croix, nous recevons en nous la vie de Dieu. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas du tout comme devenir membre d'un club de foot ou de poésie ou de musique. J'ai ma carte, j'y vais, et ou j'y vais pas. Non. C'est devenir quelqu'un d'autre, pas faire quelque chose d'autre. Bien sûr, si nous devenons quelqu'un d'autre, nos actes vont être différents en conséquence, même si des fois on échoue. Nos pensées vont être différentes. Notre vie va être différente. Mais c'est tellement naturel, tellement facile pour l'être humain de faire les choses à l'envers. J'agis différemment pour être un chrétien. Je pense différemment pour être un chrétien. Je lis ma Bible pour être un chrétien. Je prie pour être un chrétien. Et c'est faux. Je lis ma Bible parce que j'ai la vie de Dieu en moi et que la lecture de la Bible nourrit la vie de Dieu en moi si je comprends ce que je lis. Je prie, pourquoi ? Ben, c'est ce que Paul nous dit ici. Quand il dit « L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. » Soyons honnêtes, peut-être il y a quelques exceptions dans l'histoire de l'Église, mais qui peut dire, moi, quand je me lève le matin, la chose que j'attends avec impatience, ce qui fait que je saute du lit avec joie, c'est l'idée que je vais aller prier. Pas grand monde. Peut-être quelques personnes, encore une fois, ça peut arriver, je dis pas. Mais la majorité des gens que je connais et dont j'ai pu lire aussi la vie ou entendu parler de nos jours et même au siècle passé, c'est pas trop comme ça. De te réveiller, je vais pouvoir passer 2 heures en prière. Oh, rien que ça, je me jette des lits, tant pis s'il fait froid dehors, non. Et Paul, apparemment, était comme nous, il part de notre faiblesse. Et le vocabulaire qu'il utilise dans le texte original parle d'une faiblesse qui nous laisse sans force. Le mot grec, c'est le mot qui a donné en langage médical aujourd'hui l'asthénie. Vous savez ce que c'est l'asthénie ? Quand on est tellement fatigué qu'on ne peut plus bouger. Une fatigue extrême qui fait qu'on ne peut plus rien faire. C'est un mot qui a cette racine-là que Paul utilise quand il dit « L'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse ». En fait, pour la prière, comme pour le salut, comme pour le service, on ne peut rien faire sans Dieu. Je ne peux pas servir Dieu en priant puis il va être content de moi. Non, j'ai besoin de lui pour prier réellement. L'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. C'est Paul qui dit ça. C'est pas un petit gamin qui a jamais appris, qui sait pas, ou qui est rebelle, ou un adolescent ennuyé, ou je sais pas quoi. C'est l'apôtre Paul qui a été formé par Jésus-Christ, qui a été ravi au troisième ciel, dans son corps, hors de son corps, on ne sait, qui a vu des choses qu'il n'a même pas le droit de dire tellement que c'était extraordinaire. Cet homme qui, alors, je ne sais pas si à ce moment-là de sa vie, c'était avant ou après, mais enfin, à un moment dans sa vie, a ressuscité un mort, comme si c'était un détail, le gars tombe par la fenêtre, il meurt, on descend, on lui impose les mains, il ressuscite, il continue à prêcher. C'est de cet homme-là qu'on parle. Un homme qui avait déjà une culture où la prière était omniprésente, une culture hébraïque forte, qui après ça donc a fait cette conversion surnaturelle et puissante sur le chemin de Damas, formé avec Dieu, qui a implanté les églises, mais il dit, nous ne savons pas comment prier. Pourquoi ? Parce qu'il avait réalisé, encore une fois, comme pour tout le reste, que si c'est pas Dieu qui le fait en moi, alors ça ne fonctionne pas. Tout le monde peut dire des prières, hein. Tout le monde peut lire un texte, tout le monde peut mettre des mots les uns après les autres, certains plus facilement que d'autres, c'est vrai, hein. Il y a des gens qui ont un don pour parler, il y en a qui ne l'ont pas, certains sont à l'aise avec les mots, d'autres ne le sont pas, mais tout le monde peut réciter des prières, dire des prières, hein, utiliser des mots. Et Paul dit, ces choses-là, je me suis aperçu que ben, si c'est des mots, même si les mots sont justes, même si les mots sont bons, même si c'est bien, c'est pas la prière. La prière, c'est plus que ça. La prière commence lorsque notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Et là, même si dans ce moment-là, les mots sont pas forcément au rendez-vous, parce que, honnêtement, c'est facile de prier pour des situations lointaines qu'on ne connaît pas trop et qu'on a vues sur un sujet de prière. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, attention, hein. C'est utile. Mais quand je prie pour un sujet de prière que j'ai vu quelque part, ben je lis le sujet de prière. Seigneur, je te prie pour les gens qui souffrent dans tel pays. C'est un aspect de la prière qui est bien. Mais honnêtement, la plupart du temps, je ne sais pas pour vous, moi quand je prie pour des gens que je connais très proches, qui passent des difficultés vraiment profondes, je ne sais pas comment prier. Qu'est-ce qui est bien pour eux ? J'en sais rien. Je sais ce que moi j'aimerais pour eux. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Moi j'aimerais que tout s'arrange, que tout aille bien, qu'ils aient plus de problèmes. C'est pas forcément comme ça que ça va se passer. C'est pas forcément ce moyen-là que Dieu va utiliser. Puis en plus, la compassion n'est pas tellement naturelle. Et puis en plus, la persévérance non plus. Et puis, hein. Mais l'Esprit de Dieu, qui connaît notre faiblesse, vient à notre secours et va entrer en communion avec notre esprit qui est là, qui a été régénéré au moment de la nouvelle naissance, qui maintenant est actif. Et nous allons, par notre consentement, entrer en connexion avec Dieu. Après ça, il peut y avoir des mots ou pas. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et je vais prendre un exemple qui ne va pas parler à tout le monde, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas trop branchés avec les ordinateurs, je prendrai un deuxième exemple que tout le monde peut comprendre. Mais je vais prendre le premier parce que en changeant d'ordinateur, je me suis bagarré avec, je ne suis vraiment pas doué dans ce domaine. Et vous savez, quand, pour ceux qui connaissent, donc, hein, quand vous essayez d'installer un nouveau programme, genre j'ai bataillé pour installer ma Bible online, chaque fois vous avez l'antivirus et le pare-feu qui vous posent la question. Vous laissez ce programme accéder à votre disque dur ou modifier votre disque dur? Et là, il faut décider. Si vous dites oui, honnêtement, quand je dis oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais simplement que je vais laisser le programme que j'ai activé changer quelque chose dans cette machine qui va faire qu'après, il y aura quelque chose qui n'y était pas. Et si je dis non, ben, ce même programme qui a le pouvoir de donner des capacités à cet ordinateur qui l'a pas, va être bloqué. Le début de la prière, c'est la même chose. Je rentre en connexion avec l'Esprit de Dieu, et Dieu, de façon mystérieuse et peu factuelle, me dit, est-ce que tu es d'accord que je puisse modifier ta vie ? Oui ou non ? La prière commence par ça. Vous savez très bien que au jour d'aujourd'hui, si vous avez un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet, votre ordinateur, il est paralysé, il ne peut rien faire. Vous cherchez vos mails, ils ne sont pas là. Vous voulez la mise à jour, elle ne fonctionne pas. Le dictionnaire, ah ben, il n'est pas là, il est en ligne. Il n'y a rien qui fonctionne. Vous avez tout, mais c'est mort. Il faut qu'il y ait une connexion. Le croyant est pareil. Nous avons besoin d'une connexion avec Dieu. Alors, un exemple un peu plus ancien, peut-être moins percutant, mais qui nous aide à comprendre. Quand vous recevez un colis recommandé de la poste, le facteur vient, sonne. Si vous êtes là, vous allez ouvrir, sinon vous trouvez le petit papier. Et puis on vous dit, voilà, il y a un colis ou une lettre recommandée. Est-ce que vous voulez l'accepter ? Vous pouvez dire non, hein, on a le droit de refuser un recommandé. Si vous dites oui, vous devez le signer. Et puis ensuite, vous devez encore l'ouvrir. La prière, c'est la même chose. Dieu vient et puis, par son esprit, dit à votre esprit, voilà, j'ai un recommandé pour vous, c'est personnel. Est-ce que vous voulez signer? Est-ce que vous voulez le recevoir? Et je vais dire oui ou je vais dire non, je dis ce que je veux. Hein. Ce que ça signifie comme conséquence assez directe, c'est qu'il faut du temps pour la prière. Pas forcément des heures, mais il faut du temps. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de réciter des phrases. Hein. Seigneur, je te prie que là, bénisse. Là. Pendant un instant, je suis en train de penser à ce que je vais cuisiner à midi, à ce que je vais faire après. Mais je dis les phrases, hein, j'ai les sujets, je les ai tous passés. Et quand j'ai fini, je me sens bien comme quand j'ai fait mon heure de sport. J'ai fait ce qu'il fallait, je me sens bien, je suis en bonne santé, Dieu est content, moi aussi. Passons enfin aux choses sérieuses. On va aller travailler. Hein. C'est dur la prière pour les gens qui ont un tempérament factuel. Pour les gens qui ont besoin que les choses rentrent dans des boîtes carrées, qu'elles soient bien en ordre, qu'on les comprenne. Parce qu'on ne comprend pas tout, pour ne pas dire pas grand-chose. La prière commence par être connecté par notre esprit à l'esprit de Dieu. Ça ne s'accompagne pas forcément de sentiments ou d'émotions. Des fois, oui, chez certaines personnes. Souvent chez d'autres, rarement chez d'autres. Ça n'a rien. Ça, c'est... ça dépend un peu comment est paramétré l'ordinateur. Chez certains, quand les mails arrivent, ça fait ding. Chez d'autres, ils ont coupé le son. Ils arrivent quand même. Donc, c'est pas du tout quelque chose d'émotionnel, ce dont je parle. Mais c'est une réalité spirituelle. Et lorsque Jésus condamne les pharisiens dans leur façon de prier, je vais vous lire le verset dans Matthieu 6, 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils ont leur récompense. » Et puis vous savez la suite. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce que Jésus critique là, c'est pas juste le fait que ces gens priaient pour être vus. Oui, effectivement, c'est mal. Hein. Et on connaît tous, malheureusement, bon, il y en a pas ici, mais dans certaines églises, ces gens qui prient pour qu'on les écoute. Hein. Déjà, ils prennent une voix spéciale, ils utilisent des mots spéciaux, et puis ils vont faire leur petit show. Hein. Seigneur, ce matin, nous sommes heureux de venir. Il parle jamais comme ça normalement, mais quand il parle à Dieu, on ne sait pas pourquoi. Hein, c'est bizarre, je trouve. Comme si Dieu ne comprenait pas quand vous lui parliez, comme quand vous parlez avec quelqu'un. Il faut utiliser des... Enfin... Donc, c'est pas juste ça que Jésus critique ici, parce que pourquoi pas. Hein. Ce qu'il reprend là, c'est qu'en fait, les pharisiens avaient ramené la prière à quelque chose qui se fait, qui se voit, qui s'entend. Et oui, ça peut se faire, se voir et s'entendre si la connexion est là. Si l'Esprit de Dieu est en communion avec notre esprit. Et c'est pour ça que dans la prière, on ne doit pas, encore une fois, on peut parler dans la prière, hein, c'est bien, moi je parle quand je prie aussi, mais on ne doit pas non plus avoir peur du silence dans la prière. Parce que c'est ce que Paul dit dans ce verset, ben, des fois j'ai quelqu'un à cœur et je m'approche de Dieu, et là... De tout mon être, je vais consentir à ce que Dieu vienne me transformer pour que peut-être je sois une partie de la solution à ce pourquoi je prie. Mais comme je ne sais même pas pourquoi prier pour cette personne-là, ou pour moi, ou pour autre chose, ou pour le reste du monde, je vais rester dans le silence devant Dieu et il y a cette espèce de soupir non formulé. Hein. Y a pas, je ne sais pas quel mot mettre dessus, mais pourtant, je sais, de la même façon que je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que si demain je quitte cette terre, je vais avec lui. Hein. Ben dans ces moments-là, je sais que je suis en communion avec Dieu. Je sais que je prie. Je sais que Dieu m'entend. Mais les mots ne sont pas là parce qu'il n'y en a pas pour ça. Je ne les connais pas. Je ne les trouve pas. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas à s'inquiéter. Hein. C'est pour ça que, autant dans nos vies personnelles de prière que dans nos vies communautaires de prière, hein, n'ayons pas, d'abord prenons le temps, hein, il n'y a pas de raccourci à ça, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, où tout doit être programmé, minuté, rentré dans un temps précis. Et puis deuxièmement, n'ayons pas peur du silence. Pas un silence qui est rempli de moi, hein, c'est, bon alors, je dis que je priais 10 minutes, bon, plus que 9 minutes, je suis silencieux, mais c'est ce qui tourne dans ma tête. Hein. Bon, alors après, je vais aller faire ça, il ne faut pas que j'oublie de faire le plein de la voiture, sinon je vais tomber en panne, et puis, au bout de 10 minutes, j'ai prié, quoi, non, c'est pas de ce silence-là qu'on parle. Hein. Mais un silence qui est plein de la présence de Dieu, c'est très difficile d'en parler, pourquoi ? Ben justement, j'ai pas de mots pour en parler. Mais Paul nous explique dans ce passage, et je le relis avant de passer à celui d'après, au verset d'après, hein. « En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Alors, c'est quelque chose à reprendre souvent, mais je vous encourage à laisser à Dieu le temps dans la prière, et peut-être pour quelquefois laisser de côté notre façon de prier. Moi, j'ai toujours un peu de peine quand on apporte un sujet de prière ici devant le dimanche matin, et puis quelqu'un dit, si une personne ou deux veulent prier, genre, est-ce qu'on a peur que 30 personnes prient? C'est pas notre problème. Hein. Et puis, peut-être 3 vont prier, et puis peut-être personne va prier à haute voix. C'est pas dramatique. Ça veut pas dire que tous les autres ne prient pas, que personne n'est intéressé par ce sujet, ou qu'on l'a pas à cœur. Mais on va se mettre à la disposition de Dieu, prendre du temps tranquillement. Ça va être 1 minute, ça va être 5, ça va être 10, ça peut être plus, ça peut être moins. Et on va laisser, on va consentir à l'Esprit de Dieu qui vient dans notre esprit pour s'exprimer, même pas de façon compréhensible avec des mots. Hein. Et c'est pas une chose bizarre, encore une fois, où on va faire des grognements bizarres qui seraient des grognements spirituels. Non. C'est juste que c'est pas formulé avec des mots. Et puis, le verset d'après, verset 27, dit « Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. » Dieu sait. Réfléchissez à ça 30 secondes avec moi et vous allez voir que ça enlève tout un aspect de ce qu'on considérait être la prière. On a souvent cette idée que la prière, c'est informer Dieu de ce qu'il faut qu'il fasse ou de ce qu'il devrait savoir ou de ce qu'il devrait faire. Et d'ailleurs, c'est un de nos problèmes dans la prière, c'est que on fait ça et en même temps, on sait que Dieu sait déjà, ça nous pose toujours un problème quelque part. Hein. Oui, je dois le faire, mais en même temps, il sait. Alors, soit j'oublie cette inconséquence, soit je prie plus parce que je me dis de toute façon, il sait, ce qui n'est pas le but. Hein. Dieu sait. Dieu veut que nous prions. Mais Dieu sait. Donc le but de la prière, c'est pas d'apprendre à Dieu quelque chose. Évidemment qu'on peut rien apprendre à Dieu. Dieu est omniscient, on le sait tous. Hein. Mais souvent, on a l'impression dans nos réunions de prière ou dans nos vies de prière qu'on est là pour informer Dieu comme on le fait avec les humains. Et au fait, tu connais la nouvelle ? Non, tu sais pas. Ben, je vais t'apprendre quelque chose. Il faut que tu saches que... Non, Dieu sait. Il sait tout. Le passé, le présent, le futur, il sait toutes choses, il connaît nos cœurs, il sait ce que je ne sais pas, ce que je ne saurai jamais, ce que je ne pourrai jamais savoir. Mais alors pourquoi je prie si Dieu sait? Justement parce que la prière, c'est cette connexion à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas juste savoir, c'est être en relation avec, par son esprit qui est connecté avec notre esprit. Et Dieu qui scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'esprit. Je dirais, pour reprendre mon exemple tout à l'heure, hein, quand vous lancez votre antivirus, une analyse de l'ordinateur, vous ne savez pas vraiment vous ce qui se passe. Hein. Honnêtement, qui ici a le niveau pour savoir avec les 1 et les 0 qui se promènent ce qui va faire là-bas dedans? Sauf que quand c'est fini, vous avez un compte rendu et vous apprenez que votre ordinateur est propre ou qu'il y avait un virus, qu'il y a ci, qu'il y a ça, etc. Hein. C'est un petit peu ce qui se passe quand on se connecte à Dieu. Comment ça fonctionne, je ne sais pas. Mais Dieu va nous visiter, il va se passer des choses spirituelles, il va déposer de la substance, de la nourriture spirituelle dans nos cœurs. Et puis encore une fois, ben, des fois ça va se traduire par des mots. Hein. Lisez les psaumes, principalement les psaumes de David, et vous allez voir que, en fait, effectivement, les psaumes c'est des prières. Mais les psaumes sont... ce que le cœur de l'homme dit après que Dieu l'ait visité. C'est pas je vais dire des choses à Dieu pour lui apprendre ce qu'il va faire, non, c'est je prends du temps pour être en communion avec Dieu, et des fois, encore une fois, pas toujours, c'est jamais systématique avec Dieu, hein, mais des fois, assez souvent, puis ça dépend aussi sûrement des personnes, des dons, de comment Dieu l'a voulu, ce moment de rencontre avec Dieu, de connexion avec Dieu, tout d'un coup, va jaillir dans la partie consciente de notre être. Et de nos cœurs vont sortir, alors si vous êtes poète comme David, Dieu, je te loue car tu as fait de grandes choses et tu as là. Et puis, si vous n'êtes pas poète comme David, peut-être ça va être, j'ose pas le dire ici, mais ça peut être ça aussi. C'est la même chose qui est derrière, hein. J'ai connu quelqu'un qui priait comme ça au début de sa conversion. Il ne savait pas parler autrement. Hein. Mais, bien sûr, on va apprendre à le dire mieux, on va étoffer notre vocabulaire, on va l'étoffer avec le vocabulaire qui vient de la Bible. Mais, vous voyez, quand après les psaumes sont là et expliquent, c'est la conséquence de ce moment d'intimité avec Dieu, où après avoir eu cette relation intime avec lui, notre cœur va peut-être juste dire ça, ou oh, Seigneur, tu m'as fait du bien. Ou alors, Seigneur, c'est pire qu'avant. Ça y est dans les psaumes aussi. Hein. Je comprends pas. Je me suis attendu à toi, j'ai passé ce moment avec toi et je suis toujours dans l'angoisse. Mon âme est toujours étouffée par les difficultés. Ah, si j'avais les ailes de la colombe, si je pouvais m'envoler. Ça, c'est David le poète. Hein. Mais nous, c'est bon. Quand c'est que ça va s'arrêter? C'est aussi de la prière. Hein. Votre Père sait. Hein. Dieu sait. Mais Dieu qui scrute les cœurs sait de quoi, vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et c'est ça, cette chose surnaturelle qui est la prière, c'est que l'esprit de Dieu entre en connexion avec mon esprit qui a été régénéré par l'esprit de Dieu. Et ensemble, ils vont se mélanger pour demander à Dieu d'intervenir sur terre. Rappelez-vous que nous vivons au sein d'un conflit spirituel, où l'enjeu, un des enjeux est-ce que c'est la force ou est-ce que c'est la liberté qui va l'emporter? Le pari, entre guillemets, je parle avec des façons imagées, mais qui existe entre Dieu et le diable, Dieu a parié avec le diable qu'il pouvait toucher le cœur des gens et que des gens pouvaient le suivre librement et par amour. Et le diable a parié avec Dieu que ce système-là fonctionnait pas, que si on voulait quelque chose, il fallait le prendre, et que si on voulait être respecté, il fallait écraser, et que si on voulait être un chef, il fallait dominer. Et Dieu dit, ben moi, je vais prouver qu'il existe autre chose. C'est possible que des gens me suivent parce qu'ils m'aiment. C'est possible parce que je les en rends capables. Mais il y a quelque part un consentement qui est demandé. L'essence de la prière, c'est pas d'informer Dieu, c'est de consentir à ce que Dieu agisse. Consentir à ce que Dieu agisse dans mon cœur, consentir à ce que Dieu agisse sur terre, consentir à ce que Dieu, au travers de moi, ait l'autorisation. Bien sûr qu'il n'aurait pas besoin de demander l'autorisation, hein, tout est à lui, mais il a voulu que ça se passe comme ça. Lisez Job, lisez Daniel, ces livres nous parlent de ce sujet de façon plus détaillée, on pourrait le reprendre. Je relis une dernière fois le verset 27. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. On pourrait dire que la prière, c'est une synchronisation entre l'esprit de Dieu et notre esprit. Vous savez, quand vous mettez à jour, hein, hop, les deux se rencontrent et ça devient synchronisé. Quand vous vous déconnectez, c'est plus la même chose qu'il y avait. Ça s'est remis à jour. La prière, c'est ça. Parce que nous sommes vivifiés par l'Esprit de Dieu, mais notre vie, parce que nous sommes liés au péché, ben, sans arrêt, il y a des fichiers infectés, il y a des saletés qui viennent. Et dans la prière, entre autres, hein, Dieu vient et va nettoyer tout ça. Et on va être en communion avec Dieu. Je voulais passer au verset 28, mais il y a trop de choses, on va s'arrêter là. C'est un beau verset, méditez-le pour la semaine prochaine, je vous le lis. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Lisez-le une fois par jour jusqu'à dimanche prochain, vous allez voir comme ça sera plus facile dimanche prochain. Et puis nous, on va rester sur le 26 et 27. Seigneur, merci pour ce mystère de ton esprit, de ta vie, qui veut entrer en relation avec notre esprit. Et nous te demandons que, alors même que nous parlons de cela, pendant que nous sommes rassemblés, que nous puissions le vivre, que nous puissions consentir à toi, que nous puissions te laisser le temps, la place, de te connecter à nos cœurs et de nous transformer. Que nous puissions l'exprimer avec des mots ou pas, que nous puissions le formuler ou pas, peu importe, mais nous voulons apprendre à prier par l'Esprit, comme tu nous le demandes, et que ça puisse transformer nos vies, que ça puisse nous donner l'intelligence pour agir, l'intelligence pour parler, l'intelligence pour comprendre tes pensées, l'intelligence pour aller de l'avant, mais que tout ce que nous faisons, pensons, communiquons en tant que croyants, soit le résultat de cette connexion silencieuse avec toi, qui vient nous transformer de l'intérieur. Merci pour cette réalité, Seigneur Dieu.